tous là, ils sont tous prêts, rien que pour vous, chanceux, pour vous divertir. Laurent Ruquier en premier. Bonjour mon cher Laurent.
On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Caroline Diamant.
Bravo.
Vikash Torasso. Jérémy Michalak.
Bravo.
Fabrice Éboué.
Ah oui, bravo.
Titoff.
Exceptionnel.
Et Pierre Bénichou.
Génial.
Quelle ambiance. Ravi de vous retrouver, Vikash Torasso. On est parti à la neige sans vous parce qu'on s'était dit que peut-être vous ne saviez pas skier.
Non, non, je sais pas skier.
Vous n'avez pas eu le droit de skier pendant des années, j'imagine.
J'y suis allé deux fois, il n'y avait pas de neige.
Ah, voilà. Ah. Mais c'est mieux pour un footballeur parce qu'autrement on se casse une jambe, après le club est pas content.
Ouais, mais tous ceux qui savaient skier avant de jouer au foot, y allaient skier.
Ah, c'est pas grave, il jouait pas au foot, lui.
Il était très beau en ski, en revanche.
Les noirs skient pas.
Comment? Mais vous n'êtes pas noir?
Un peu.
C'est marrant comme il y a des vocations depuis Obama, c'est incroyable.
C'est-à-dire?
Ah bah ils disent tous je suis noir.
On voit tout de suite s'ils mentent quand même.
Oui, mais quand même.
Je passe tout de suite au mail. Par exemple, quelqu'un nous envoie, parce qu'hier on s'interrogeait, les signes astrologiques des membres de l'équipe dans l'horoscope chinois, parce qu'on savait pas qui était quoi, vous savez, hier. Alors, moi je suis lapin, par exemple. Je l'ignorais, mais je suis lapin. D'autres ne l'ignoraient pas, remarquez.
Vos partenaires ne l'ignoraient pas.
Jérémy Michalak est singe.
Ouais.
Vous êtes petit singe.
Ouais.
Titoff est rat. Christine Bravo, singe. Pierre Bénichou, vous êtes tigre dans l'horoscope chinois.
Ça m'étonne pas.
Fabrice Éboué, par contre, impossible de trouver sa date de naissance, nous dit Jamila. Aurait-il des choses à cacher?
Encore un présumé.
Bien sûr.
Toutefois, afin d'éviter des blagues douteuses de Fabrice, je tiens à préciser que je suis noire et camerounaise. Vous voyez? Encore une qui revendique finalement ses origines.
Alors, c'est quoi ta date de naissance?
Je suis né en 77.
Vous êtes né en 77. Bon, on va faire les recherches
mais
pour
ça savoir. Ça n'existe pas, lapin.
Comment ça existe?
Non,
pas
c'est lièvre.
Je suis lièvre d'eau, en fait, en astrologie chinoise. C'est ce que me précise Manon. Ça tombe bien, d'ailleurs. Lièvre d'eau, ça doit être une précision supplémentaire. Ça doit être comme le premier ou le deuxième décan chez nous.
Sûrement.
Parce qu'il y a 12 signes astrologiques, comme dans l'horoscope français, dans l'horoscope chinois. Turlute m'écrit qu'en écoutant Europe 1, il a entendu que les météorologues avaient donné le prénom de Klaus à la tempête qui a frappé le sud-ouest. C'est la tempête Klaus. Et il a imaginé qu'on pourrait peut-être donner des prénoms de chroniqueurs aux différentes tempêtes qui viendrait s'abattre sur la France. L'ouragan Pierre, par exemple, pour les vieilles tempêtes très bruyantes qui ravagent les tympans. Le coup de vent Joujou pour les toutes petites tempêtes de rien du tout. Ça souffle et on le sait même pas. Les tempêtes chaudes et humides qui viennent des tropiques seraient les tempêtes Caroline. Les vents soufflent au moins à 115. Pas en kilomètre heure, mais en bonnet. La tempête Titoff pour les tempêtes venant de Marseille, toujours très exagérées. Les tempêtes qu'on attend mais qui ne marchent jamais. J'avais pensé à la tempête Jérôme Mounet, c'est pour Bonaldi. Et enfin, la pire des tempêtes, c'est la tempête Boubounet, une sorte de dieudonné de force 12. C'est pour vous, Fabrice Éboué, c'est la tempête qui décoiffe. Merci Laurent pour vos émissions, m'écrit Julie, vous êtes le meilleur. Merci Julie, c'est gentil. J'apprécie beaucoup Christine Bravo, Claude Sarraute et les autres. Dans l'ensemble, me dit Julie. Ça, j'aime bien le mot, dans l'ensemble.
Ouais, c'est sans préciser. Ouais.
Mais vous pouvez dire à Madame Diamant d'éviter de hurler lorsqu'elle tente de répondre à une question. C'est insupportable pour les oreilles.
Je suis désolé, mais c'est tellement spontané. Je vais essayer de m'éloigner.
Et puis souvent, elle est dans la lancée de sa nuit, donc elle continue. Que...
Ça dépend qui j'ai croisé.
Une auditrice qui s'appelle Christine me dit « Non, contrairement à ce que vous avez dit hier, toutes les auditrices chômeuses ne sont pas secrétaires. Moi, je suis électricienne. » C'est un appel, ça. Elle tient à le dire. Bon, voilà, Christine, électricienne, cherche donc un emploi. Non. Pouvez-vous couper le micro de Michalak lorsqu'il rit, me demande Jocelyne, s'il vous plaît. Merci.
Alors, ça veut dire qu'on le laisse allumer le reste du temps. Mauvaise nouvelle.
Concernant le canot à poulet, hier on a parlé, vous savez, de ce canot à poulet. Connaissez-vous cette anecdote, me dit Fabrice, belge mais véridique, pour des essais de pare-brise de locomotive. La société des chemins de fer belge avait commandé un canot à poulet et procédé aux essais contre le pare-brise de la loco. Hélas, tous les essais voyaient le malheureux volatile mort, puisqu'évidemment on prend des poulets morts, non seulement traverser le pare-brise en verre sécurite, mais s'incruster dans la paroi arrière de la cabine. Après plusieurs essais, la société de chemin de fer a appelé le laboratoire fournissant le canon et vérifié tous les réglages. Personne ne trouvait pourquoi ça ne marchait pas bien et pourquoi les pare-brises étaient aussi peu solides. Tous les paramètres avaient pourtant été scrupuleusement respectés, sauf un paramètre. Les ingénieurs belges opérant les essais chargeaient dans le canon des volailles encore congelées. Il paraît que l'anecdote est véridique.
C'est quand même assez incroyable.
On n'aurait pas dit qu'il fallait décongeler le poulet avant de le mettre dans le canon.
J'ai au téléphone deux auditeurs qui patientent, Marie-Claire qui habite Martigues et François Caen. Bonjour Marie-Claire.
Bonjour.
Je vous ai réveillée Marie-Claire ?
Non, non, je suis troublée.
Troublée de nous parler ?
Intimidée.
Oui, mais je vous écoute tous les jours, je suis fan et là je pensais pas pouvoir parler.
Eh oui, qu'un jour vous nous approcheriez de si près.
La chance. Mais vous êtes troublée, vous saviez que j'étais là ou pas ?
Qui vous impressionne le plus dans l'équipe ?
Oui. J'aime beaucoup
Arrête, ça me gêne.
Benichoux et Christine Bravo.
Pierre Benichoux et Christine Bravo. Titoff, vous en foutez alors?
Un peu.
Oh là, ça fait plaisir.
J'ai essayé de tirer un compliment, pardon Titi.
Non, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir, merci. C'est,
elle est charmante.
Voilà. T'es moche, non hein? T'as aucun succès, t'as pas d'humour, tout va mal pour toi, c'est ça, non?
Et Vikash Dorasso?
Non, je préfère les vieux, moi, j'aime pas les vieux.
Voilà. Et ta mère, tu l'aimes bien? Son père, tu le détestes, non?
Vous allez affronter François qui habite Caen. Bonjour François.
Bonjour Laurent.
Oh, voilà une voix caverneuse, François.
Un petit peu, oui, mais bon.
Vous êtes enrhumé? Vous avez fumé?
Je suis enrhumé, oui.
Vous êtes fumeur, peut-être?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Faites quoi dans la vie, François?
Moi, je travaille avec des vieux, justement. Je suis aide-soignant en gériatrie.
Un peu comme moi ici, aide-soignant en gériatrie. Et vous avez un petit message à faire passer, François?
Bah oui, qu'il y ait le maximum de gens jeudi prochain. Hier, vous parliez de la SNCF, mais dans les hôpitaux, on a besoin aussi de se révolter.
Ah, donc vous parlez de la manif de jeudi. Oh là là, vous êtes un politique, un syndicaliste, François.
Je suis syndicaliste, oui. Bon, je voulais pas trop le dire.
Non, mais j'avais compris.
On s'en était douté, là.
François, vous affronterez Marie-Claire. Et j'ai pas demandé à Marie-Claire ce qu'elle faisait dans la vie.
Je cherche un job.
Ah, dans quel domaine? Parce que Titoff pourrait vous aider.
Ah, ça m'intéresse, alors. Dans la vente.
Dans la vente?
La vente de quoi?
La vente.
Bon, n'importe quoi.
Voilà. Bon, on va trouver n'importe quoi.
Marie-Claire contre François. Attention, vous êtes prêts pour la question l'un et l'autre. Lors du match de Tsonga contre James Black, match remporté par le Français, il y a eu une interruption. Interruption due à quoi?
Un kangourou.
Non.
Un feu d'artifice.
Oui, mais pourquoi un feu?
Parce que c'était une fête nationale en Australie.
La fête nationale.
La fête nationale australienne.
Excellente réponse de Caroline.
Comme elle n'a pas été gentille avec notre petite offre, ben voilà.
Voilà, c'est malin, Marie-Claire.
Oui, c'est.
Vous ne saviez pas en même temps.
Non, je cherchais.
Vous croyez qu'elle l'avait sur le bout de la langue?
Non, elle
a dit c'est le.
Et François, vous saviez, vous?
Non, pas du tout. Bon, j'avais pourtant revisé et tout, mais.
Ouais, vous avez revisé,
J'ai entendu la victoire de Tsonga, mais pas.
Et oui, le match a été interrompu par un feu d'artifice tiré à l'occasion de la fête nationale australienne. Alors, il faut savoir que ça s'appelle donc l'Australia Day, le jour de l'Australie. C'est aussi parfois nommé la Foundation Day, puisqu'on célèbre chaque 26 janvier la création de la première colonie britannique sur le continent australien, qui était la fondation d'un bagne, je suis très précis et très culturel, mais c'est bien aussi d'apprendre des choses, fondation d'un bagne à Sydney Cove, sur le Port Jackson, en Nouvelle-Galles du Sud, c'était en 1788, et c'est le capitaine Arthur Phillip, en sa qualité de premier gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, qui avait fondé ce bagne. L'Australia Day est un jour férié dans tous les états et territoires australiens, et il y avait donc un feu d'artifice prévu en plein match, et on avait donc prévu d'interrompre ce match. Ça a dérangé, ça a dérangé le Français, mais ça l'a pas empêché de gagner.
Et ça, Françoise, elle le savait pas.
Voilà. c'est bas de se venger comme
elle
ça.
Elle est nulle.
Marie-Claire.
Surtout qu'elle s'appelle Marie-Claire.
C'est pour ça qu'elle t'aime pas.
D'une minute à l'autre.
Marie-Claire le savait pas. Elle est nulle. C'est nulle, Marie-Claire. T'avais même pas la réponse.
Je peux dire quelque chose?
Oui, Marie-Claire.
Mais je voulais vous dire que je vous embrasse parce que je vous aime beaucoup.
Ah,
et, c'est gentil ça.
C'est trop tard, Marie-Claire. Faut failloter avant, pas après.
Tout ça sans intérêt, j'aime beaucoup Laurent.
Marie-Claire, je dois vous dire que vous avez une voix charmante. Pour moi, vous êtes l'image même de la jeune fille, de la jeune femme. C'est-à-dire troublée, troublante. Oui, et ces deux connards, là, ces emballeurs de balbuzettes. Ne vous en faites pas avec eux. De toute façon, ils ne sont pas là pour longtemps. Voilà. Pierre, deux coups.
Marie-Claire, si quelqu'un cherche une vendeuse du côté de Martigues,
Martigues, elle est en plus!
Oui.
Oh là là, quel scandale.
Et ben, on transmet.
J'ai habité, moi, Martigues. Tu te rends compte, un peu Marie-Claire?
Ouais, mais je sais que vous êtes pas loin, mais
C'est peut-être pour ça.
Elle m'aime pas.
Ouais, c'est peut-être des raisons, hein.
Nul n'est prophète en son pays. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? On embrasse tous les gens du côté de Martigues et tous les auditeurs du côté de Caen. Et vous deux particulièrement, Marie-Claire et François.
Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Question culture générale, si je vous dis Hamida Djandoubi, c'est un nom que l'histoire retiendra en France. Pourquoi a-t-on retenu le nom d'Hamida Djandoubi dont on reparle aujourd'hui dans la presse?
Je vais laisser ma place à...
Moi, je crois qu'elle a gagné l'Eurovision.
Hamida Djandoubi.
Oui, et oui, avec chanteuse tunisienne.
Avec quelle
Elle a gagné avec...
D'abord, il n'y a pas de chanteuse tunisienne à l'Eurovision, Pierre.
C'est con.
Chanteuse d'origine tunisienne qui défendait les couleurs de la France.
Ah,
en quelle année?
Ah non, tu confonds.
Comment elle s'appelle?
Avec Amina.
Ah oui, Amina.
Amina. Le clip magnifique.
Pas loin, tente,
vous là, confondez avec Amina qui avait effectivement terminé ex aequo, mais une clause de règlement avait finalement fait gagner l'autre candidate et Léon Zitrone s'en était égosillé.
Voilà, presque bonne réponse de Pierre Benichou.
Ah non, ça n'a aucun rapport.
Elle était bien, Amina.
C'est un homme ou une femme?
C'était un...
Amina, on n'a pas dit Amino.
Non, mais celui qu'on cherche.
C'était un homme, donc il est mort.
Hamida Djandoubi. Oui, Hamida et c'est Djandoubi. Même d'ailleurs son décès qui, évidemment, a un lien direct avec la question.
C'est le dernier condamné à mort de la guillotine.
Le dernier à avoir eu la tête tranchée le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes à Marseille. Excellente réponse de Fabrice Edoué.
Ah ben ça, c'est sûr qu'il pouvait pas se tromper.
Je sais pourquoi on en reparle aujourd'hui. Parce que ce soir passe le film sur Robert Badinter qui s'appelle L'Abolition.
Exactement, deux parties, une mini-série. Première partie ce soir, 20h35. Et on retrace sur une dizaine d'années le combat de Robert Badinter contre la peine de mort. C'est Charles Berling qui interprète le rôle de Robert Badinter. Et effectivement, le dernier, non pas condamné, hein, parce qu'il y a une différence entre être condamné à mort et
être exécuté.
Je parle bien du dernier exécuté. Le dernier à avoir eu la tête tranchée le 10 septembre 77. C'était à la prison des Baumettes. À Marseille.
Je peux vous dire que le dernier qui a été condamné à mort et pas exécuté, il s'appelait Philippe Maurice. Et ce Philippe Maurice qu'on a entendu par là, il dit j'étais là.
Il a eu droit à la dernière cigarette.
Non, pas du tout. Et j'attendais le 10 mai 1981, l'élection ou pas de Mitterrand. Et les autres jouaient leur préférence politique. Moi, je jouais ma vie.
Et le premier guillotiné, on l'a le nom ou pas?
Ah non, mais en revanche, on a tout l'historique hein, de la condamnation à mort et surtout de l'exécution de la peine sous l'ancien régime, ce que j'ignorais. La hache était réservée aux nobles, le bûcher aux hérétiques, le démembrement aux voleurs. Et c'est seulement sous la Révolution, effectivement, qu'on a adopté la guillotine grâce ou à cause du fameux docteur...
Guillotin.
C'était à la carte, hein, quoi.
Et oui, voilà.
Petit choix, quoi.
Je sais pas ce que j'aurais choisi.
Mais la hache, on coupait quoi? La tête aussi?
Oui, j'imagine, mais à la hache.
Ouais, et
c'est moins rapide.
C'est plus dur.
Oh non.
C'est plus classe, quoi.
Au coup de hache, tu y es.
La hache, tu vois, c'est...
Tu pouvais rater son coup, quoi. En fait.
Ça dépend si c'est Michelac qui tranche la tête, faut 10 coups.
C'est ça.
C'est le bourreau, c'est un môme de 12 ans.
Et
n'arrivait pas à soulever la hache.
Le démembrement, il commençait...
Le démembrement, c'est... Oui.
Avec des chevaux, non?
Ah oui.
On attache chaque membre à 4 chevaux. Et chacun... Va dans un... Au lieu d'aller dans le même sens, c'est qu'on l'a, ils vont chacun dans un sens différent.
Ah, c'était le bon temps, hein.
Ah, oui,
ah, la belle époque de la torture, c'était bon. Hein. Ah, ça.
Mais il y avait au Moyen-Âge qu'on appelait la loi du talion, quoi. C'est-à-dire, tu volais une pomme, on coupait la main, quoi. Tu violais une meuf, on coupait les cheveux à cette salope et on l'envoyait au couvent, quoi. Il y avait une logique, quoi.
C'était ça, le Moyen-Âge.
C'était bonheur.
Et ça vous fait rire. Bande d'andouilles.
Les dernières
surtout
heures.
C'est pas plus civilisé que la loi des talions. Contrairement à ce qu'on croit.
C'est-à-dire?
Eh ben, on croit, c'est le début du monothéisme. Je suis chiant aujourd'hui, mais tant pis. C'est que, on a dit, pour un œil, dent pour dent. C'est-à-dire, ne tue pas pour un oui, pour un non. Ne, celui qui t'a enlevé un œil ne lui enlève qu'un œil. Celui qui t'a enlevé une main ne lui enlève qu'une main. Et c'est non pas une morale de vengeance, c'est une morale de modération.
Ah
la
oui.
loi du talion.
Ouais, enfin, sauf quelqu'un qui tue, alors, oui, enfin, quelqu'un qui te tue, tu peux pas le tuer.
C'est difficile que tu le tues. Si t'as bien tué, tu peux pas le tuer.
Europe 1, on va se gêner. La question, citation.
Qui
a dit quoi?
Quoi? Aussi longtemps qu'il ne se frappe pas à la figure, cela fait partie du métier.
Éric Guéret.
L'entraîneur de l'OM, Ben Arfa.
Exact. Alors bon, soyez précis d'abord.
J'allais le dire.
La bagarre entre Ben Arfa et Ziani pendant l'entraînement.
C'est quand même Dorasso qui, effectivement, a trouvé que c'était Éric Guéret, le coach.
Ouais, il a pas le droit de répondre aux questions sur le foot, quoi.
Non, mais il n'était pas censé savoir que c'était du foot. Aussi longtemps qu'il ne se frappe pas à la gueule, ça fait partie du métier. Ça aurait pu être une question sur le conflit israélo-palestinien.
Ouais.
Il a simplement deviné qu'il s'agissait de football. Et que effectivement, pour être très
j'aurais
précis,
pu savoir, hein, le Marseillais. Savoir aussi,
je sais pas, vous devriez vous tenir les coudes tous les deux, vous engueuler comme ça, c'est con. Comment ça va?
C'est vrai, pourquoi t'es méchant avec des cages?
Minorité, enfin.
Il y a des quotas maintenant, si tu veux.
Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé.
Les beaux cheveux qu'il a, lui,
hein. Dorasso, alors à Marseille.
Je sais pas. J'ai juste lu la phrase. C'est qu'ils se sont battus, ce qui est très courant dans une équipe de foot.
C'est vrai.
Ouais, ce qui arrive assez souvent.
À l'entraînement, ils
bien. On aime bien.
Tu t'es battu toi déjà?
Ouais, tu devais vachement.
Non, on m'a battu. On me battait souvent.
Là, c'est entre Karim Ziani et Ben Arfa que ça s'est passé. Le malaise est assez profond, paraît-il, parce que quand même, Ben Arfa est pas content de démarrer les matchs sur le banc de touche. Et c'est vrai que c'est quand même un bon joueur, acheté 12 millions d'euros à Lyon l'été dernier. Sauf que, manifestement, il est un peu trop sanguin, quoi. C'est ça le problème.
Ouais, et puis surtout, l'entraîneur le fait pas jouer. Et puis, enfin, vu la faiblesse de l'équipe de Marseille, je comprends pas comment il joue pas, quoi.
Comment la fin? Attends une seconde, tu peux répéter ce que t'as dit?
La faiblesse du championnat de France et la plus grande faiblesse de Marseille, quoi. Ils sont nuls.
Donc c'est courant que deux joueurs du même équipe se tapent dessus, alors.
Ouais, ouais.
Et c'est comme les boxeurs.
Moi, je me suis fait sauter dessus à la mi-temps d'un match. Moi.
Ah bon?
Ouais.
Par un autre joueur.
Par
un film.
Par Grégory Coupé.
Ah oui, il est petit en plus.
Ouais, beaucoup plus balèze que moi, avec le docteur au milieu en train de nous séparer. Enfin, c'était.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé?
Scène. Alors, il me reprochait de pas l'écouter, je sais pas quoi. Puis il est rentré, il a voulu se battre. Voilà. Puis en plein match de Champions League contre Arsenal à la mi-temps, à domicile à Gerland.
Contre Coupé.
Ouais.
Il te fait massacrer, dis donc.
Tu sais bien que c'est pas le plus costaud qui gagne. Est-ce que t'étais bon dans la chicore, toi?
Ouais, j'étais bon, ouais.
Non, sérieusement, dis
bon.
La vérité.
En bande, j'étais super bon. À la sortie des boîtes de nuit.
Ah bah, ça, c'est honnête, au moins.
Dans la chicore, vous avez dit, Pierre.
Ouais, la chicore.
C'est quoi la chicore?
La bagarre.
La bagarre.
Ah ouais?
Ah, il connaît pas la chicore. Là, il veut nous faire croire qu'il a été élevé à Jean-Charles Saïd, lui, il connaît pas la chicore.
Mais moi, je connais pas la chicore.
Non, moi non plus. La chicorée, j'en prenais le matin parfois au petit déjeuner, mais
la chicore, c'est la castagne.
Demande aux voyous qui sont là, on sait ce que c'est, nous, la chicore.
Voilà. Fabrice, vous étiez bon? La chicore?
Moi?
Ouais.
Ça va, pourquoi?
Ah. Le dur, il a cassé la gueule à Michalak, pour te dire, quoi.
Un groupe belge qui s'appelle Suarez. C'est une découverte Europe 1. On écoute, on attend un extrait de leur premier album, album qui sortira le 2 mars.
Un mot pour vous prévenir que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu ce soir à 18h30. Notez-le bien, avec comme invité en plus Valérie Danido. Alors pour assister à l'enregistrement, c'est très simple. Posez des questions par téléphone et peut-être gagner en plus des cadeaux. Il faut laisser dès maintenant votre téléphone à vous sur le répondeur de Laurent. 01 42 32 11 11, le 01 42 32 11 11. Tout de suite, un autre Laurent Ruquier cette fois.
Europe 1, on va se gêner. La question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé.
Qu'est-ce qui a été peint en 1857 par Jean-François Millet et qui revient hélas à la mode?
Pourquoi hélas?
Peut-être les femmes en chair?
Non.
Hélas, et ma main dans ta gueule.
Oh, la tête de Caro quand t'as dit ça.
Hélas. Non mais.
Bah pourquoi hélas? C'est une indication que
c'était
je vous donne.
Quel genre de tableau? C'était un paysage?
Ah, c'est justement ce que je vous pose comme
c'est
question.
C'est un tableau précis ou c'est une série de tableaux?
C'est un tableau précis.
Est-ce qu'il a peint un paysage et qui aujourd'hui serait genre dévasté par le réchauffement climatique?
Non, c'est la famine. C'est la famine. C'est le manque de d'argent.
Ouais, mais alors c'est le titre exactement du tableau que je vous demande, puisque justement aujourd'hui ça revient et on en voit un peu partout, alors que effectivement ce tableau a été peint en 1857 et on utilise le même terme dans l'actualité du jour.
Les clochards?
Non.
Ça a rapport avec les j'ai envie de dire la soupe populaire?
Non, mais oui, ça a rapport avec la pauvreté, indirectement.
Avec les restos du cœur?
Vous connaissez pas ce tableau de Millet?
Je connais l'Angélus, c'est tout.
Mais il n'y a pas que l'Angélus.
Les glaneuses.
Bonne réponse de Fabrice Eboué, les glaneuses de Millet.
Ah, il est vulgaire, mais cultivé aussi, le garçon. Hein.
Alors là, bravo, Fabrice. Effectivement, parce que, hélas, on voit de plus en plus de glaneurs et de glaneuses, non seulement dans les villes, mais dans les campagnes, à cause de la pauvreté. Des gens vont sur les marchés récupérer les restes ou les fruits qui n'ont pas été vendus, ou même parfois à la sortie des supermarchés, les articles dont les délais de consommation sont dépassés. Et les glaneurs sont, hélas, de plus en plus nombreux. C'est une étude qui révèle pour la première fois le profil des glaneurs et des glaneuses. Ces personnes qui récupèrent ce que les marchands jettent. Et Martin Hirsch lui-même aujourd'hui va étudier cette enquête parce qu'il se dit choqué par la prolifération des glaneurs et des glaneuses sur les différents marchés et les glaneuses de Millet. C'est un célèbre tableau qui date de 1857 qu'on peut voir au musée d'Orsay d'ailleurs. Les glaneuses qui ramassaient dans les champs les épis ayant échappé aux moissonneurs.
Mais moi je vais vous dire, j'ai bien étudié, j'ai bien observé l'économie ces derniers temps. Je sens que ça va être la crise, hein.
Vous avez raison de. C'est bien de le préciser.
Ouais. Ça va pas tarder là.
Ah oui. Ouais. Vous avez des solutions contre la crise.
Oh, bien sûr, ouais. Mais un peu plus de temps.
Et... Mais tes conneries, tu les glanoues, toi, généralement.
Dans ton cul.
Non, bah, alors là, c'est pas une réponse.
C'est une réponse qu'on aurait pu faire au bar à 2h du matin. Mais... C'est vrai que si on repart en plein après-midi.
Il y a des restes de l'Alpe d'Huez.
Non, je préférerais interrompre ma collaboration.
T'as raison. Si je vous dis, et si je vous donne surtout le nom de Robert Williamson, qui a 67 ans, c'est un prêtre, un religieux et même un évêque dont on parle beaucoup dans la presse.
Moi, je vais vous dire qui c'est, ce monsieur.
Oui.
C'est un monsieur qui est un intégriste et qui a été réintégré.
Un intégriste réintégré.
Non, qui avait été excommunié avec la suite de Monseigneur Lefebvre et tout ça. Et ce fameux pape, vous savez, cet Allemand qui s'appelle Benoît XVI, en fait ce monsieur qui est né en Allemagne, s'appelle Benoît XVI, il a réintégré tous ces gens, tous les prêtres qui avaient été intégristes. Et ce monsieur Williamson, il a une petite particularité, c'est qu'il a dit, il y a une quinzaine de jours, dans une allocution, on a beaucoup exagéré sur les camps de concentration. Il est prouvé qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz. Quant aux juifs, il y en a peut-être 200 000 qui sont morts, et non pas 8 millions, comme on le dit. Alors qu'un type qui dit ça, c'est-à-dire un négationniste, puni par la loi, enfin je veux dire, c'est dire ça, c'est immonde, on peut avoir des avis différents sur ce genre, mais là-dessus, et que le pape, après un aggiornamento extraordinaire de l'Église qui a duré 40 ans, en arrive à réintégrer ce mec-là, eh ben moi j'ai dit pas bravo au pape.
Excellente réponse.
Bien expliqué.
Un peu longue, mais bonne, hein, comme disait la jeune mariée.
Benoît XVI a annulé, effectivement, l'excommunication de 4 évêques intégristes, dont ce négationniste. C'est évidemment pas très, très malin de la part du nouveau pape. Ça fait combien de temps qu'il est là, Benoît XVI? Ça fait quand même un petit moment. On a du mal à.
4 ans, 5 ans.
À s'y habituer.
Oh
mais,
non. 4 ans. Oh non.
Jean-Paul II, Jean-Paul III. Attendez, on fait les calculs.
Ouais, c'est ça.
Non, mais, ça fait quoi? 1 ou 2 ans seulement?
Non, plus que ça.
Un an et demi.
Il est là depuis 2005, Benoît XVI. Ça fait quand même déjà 4 ans.
Ah, attendez, on est début 2009. Ça fait 3 ans, on avait raison.
Oh bah, non mais vous êtes chiés quand même. Qui c'est qui avait raison? Non mais elle est incroyable cette Caroline.
Il y a plus près de 3 ans que de 4 ans, excusez-moi.
Merci.
Quelle épidémie reste pour l'instant encore modérée, mais toutefois est au-delà de la moyenne dans le Nord-Pas-de-Calais, en Alsace actuellement, et pourrait gagner le reste du territoire.
La gastro?
Non.
Oh bah non, j'imagine que c'est pas une vraie maladie, sinon c'est pas rigolo.
Ah, c'est quand même une vraie maladie.
C'est pas la grippe, hein. C'est pas la grippe,
justement.
C'est un truc ridicule.
Non, la grippe et la gastro continuent de faire des ravages. C'est vrai, mais il y a une troisième maladie qui commence à faire une petite percée d'après le réseau Sentinelle de l'INSERM, qui est, vous savez, l'Institut National de la Santé et de la Recherche
MST,
médicale.
MST?
Non, pas MST.
C'est une maladie courante?
En tout cas, c'est une maladie transmissible. Ça,
une maladie courante? La colique? Oh, elle est bonne! Non, là.
Est-ce que...
j'ai atteint un certain sommet.
C'est une maladie avec des boutons.
La varicelle.
La varicelle. Bonne réponse débouée, Titoff. Moi, je l'ai pas eu, la varicelle, mais je pensais pas. Il y a une description dans la presse de la varicelle, c'est assez terrible.
C'est horrible.
Des vilains boutons qui vous gratteront beaucoup. Elle nécessite une hygiène rigoureuse et surtout interdit les enfants de crèche et d'école jusqu'au dessèchement des boutons.
Ah ouais.
Extrêmement contagieuse, la varicelle se transmet par contact direct avec les lésions cutanées, mais aussi par inhalation de gouttelettes de salive émises par une personne malade.
Mais lorsqu'un enfant a la varicelle, bon, c'est assez habituel. Tous les enfants passent en général par là. Mais quand c'est un adulte,
Moi, j'ai un pote qui a eu la varicelle. Le premier jour, quand tu le vois arriver, c'est hallucinant, quoi.
Ouais.
On dirait que c'est un mec, tu sais, on dirait que quand quelqu'un qui s'est pris des plombs dans la tête.
On lui donne une petite cloche.
Ouais, presque. Hein. C'est des
petits... Chaque année, la varicelle touche quand même 700 000 personnes et il y a 20 décès. Quand même, on peut mourir de la varicelle.
Ah bon, c'est une forme de petite variole. Vous vous rappelez cette maladie?
Ah, des petites ravioles, ça j'aime bien.
Royan, ouais.
La variole de Royan. Très très bon. Allez, on se retrouve après la pub.
Et c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices.
La question concerne Christian Mailleux. C'est un nom que vous devez retenir parce qu'on va forcément de plus en plus en parler dans les jours qui viennent. Qui est Christian Mailleux qu'on voit beaucoup en ce moment sur les plateaux télé?
Un politique?
Politique, pas vraiment.
C'est lié aux grèves, un syndicaliste peut-être.
Alors oui, c'est...
Ah, c'est le patron FSU. de Sud.
Le secrétaire national de Sud, pas Christian Mailleux. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Fabrice Eboué.
Je dis le patron de Sud.
Voilà, le porte-parole de Sudrail et secrétaire national de Sud, l'enfant terrible du syndicalisme français.
C'est celui qui ressemble à Corbier.
Un peu.
Ah, il a la même tête que Corbier, c'est dingue, je te jure.
Ou Chabal qui aurait maigri.
Oui, c'est ça.
Hein, en quelque sorte. Il estime que les tensions sociales sont de plus en plus fortes chez les salariés du public comme du privé et il espère évidemment beaucoup en la grève de jeudi prochain qui n'est selon lui qu'une étape. Sud est le syndicat qui est, on va dire, dans la mire du président Sarkozy qui leur reproche beaucoup de choses, un extrémisme de gauche.
Oui, c'est le syndicat le plus en pointe dont on dit qu'il est inspiré par Monsieur Besancenot. Oui. Selon se défend Monsieur Besancenot.
Bah, c'est pas qu'il est inspiré, c'est que simplement Monsieur Besancenot, comme vous dites, est adhérent au syndicat Sud.
On peut être adhérent d'un syndicat et ne pas être celui qui tient les ficelles.
C'est ce qu'il dit.
Il y avait un dessin dans Rançon, dans le Parisien hier, qui était plutôt rigolo, où on voyait un couple de Français s'adresser à Nicolas Sarkozy et François Fillon. Il disait « Jeudi, il n'y aura plus d'école, plus de services publics, plus de fonctionnaires, plus d'hôpital. » Et là, Sarkozy répond « C'est pas une grève, c'est notre programme.
»
c'est plutôt bien trouvé. C'est signé Rançon dans le Parisien. Alors, vous êtes prévoyant pour la journée de jeudi. Comment vous vous préparez, Caroline?
Moi, très simplement. C'est-à-dire que si j'ai des rendez-vous, j'annule tout et je reporte tout.
Et votre fille, vous la mettez à l'école quand même?
Ma fille, écoutez, non, les professeurs n'ont pas encore dit ce qu'ils allaient faire.
Et ton chien?
On a aucune indication.
Et ton chien, parce qu'on a bien compris que ton chien passait
avant
ta fille.
Et mon chien toujours collé à moi.
Et ton mari?
Collé à mon chien.
Vous vous préparez pour la grève? Vous manifestez, vous, Dorasso, puisque vous avez l'air très engagé. Alors, vous défilez?
Jeudi, j'y serai. Ouais.
Sans rire, vraiment, dans la rue et
tout.
N'oublie pas le ballon. C'est pas vrai. C'est parce qu'ils sont en train de se poser la question, par exemple, au Parti Socialiste, de savoir où est-ce qu'ils doivent se mettre dans le défilé. Est-ce qu'ils auront le droit d'être devant avec les syndicalistes? Ou est-ce qu'ils seront simplement sur une partie du cortège en train d'applaudir les manifestants? Martine Aubry sait pas trop où aller. Vous allez marcher avec les...
Oui, moi, je suis pas Parti Socialiste, donc moi, j'y serai, je marcherai. J'ai toujours fait quand j'étais jeune, donc...
Moi, j'ai une voiture.
Donc, je m'en fous.
Moi, j'ai une voiture.
Et donc je marche pas. Ça paraît logique.
Moi je pense jeudi à tous les travailleurs du métro qui ne pourront pas travailler tout simplement. Je pense aux Roumains, je pense aux gens qui avaient prévu de se suicider jeudi sur les rails qui pourront pas parce qu'il y aura pas de train. Je pense à tous ces gens-là. Et c'est triste de fermer les métros pour tous ces citoyens honnêtes.
Je trouve qu'il est très bon, mais je préfère Elie Semoun quand même. Mais non, mais est-ce qu'on peut faire plus réac que ce que tu viens de dire?
Mais c'est normalement ton créneau, Pierre, t'exagères quand même. Normalement, t'aurais fini par dire « enculé de pauvre » à la fin, quoi. Donc j'ai repris ton créneau habituel.
« Salaud de pauvre ».
En fait, il râle parce que vous êtes en train de lui prendre son créneau. C'est ça qui l'emmerde, à Pierre. Non?
Non, moi, quand je suis avec Dorasso, j'ai pas envie de faire de l'humour là-dessus.
En tout cas, dans la manif, je vous propose une chanson. Jeudi, si vous y êtes, mon cher Dorasso, vous pourrez chanter « Toi plus moi ».
Et c'est la suite dont on va gêner, il faut le dire, dans une bonne ambiance, puisque ça rigole pendant la pub.
C'est pas de chance, pendant la pub, ça riait beaucoup.
C'est sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Pierre a fait sa meilleure vanne pendant la coupure.
Non, pas du tout. Mais c'est parce que notre ami Éboué, il faisait toc, 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 toc. Alors on m'a dit, t'es bruiteur, on a parlé des bruiteurs. Et je dis qu'on reconnaît un mauvais raconteur d'histoire au fait qu'il veuille faire des bruitages. Il dit, alors, il y a Marius qui arrive, il monte l'escalier. Toc, 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 toc. Il dit, quand un mec commence comme ça, tu sais que tu vas te faire chier à la fin.
Bah, c'est, ça permet de meubler, vous voyez. Je pourrais moi-même bruiter les questions, si vous voulez. Hein. Ouais. Ça, on peut essayer, si vous voulez. Par exemple, avenue de l'Opéra.
La, 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 la.
Dimanche, peu après minuit. Doum, 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 doum. Là, il faut en faire 12, c'est long.
C'est long.
Ah oui.
Un chanteur aurait essuyé des plombs qui ont troué la manche de son.
Enrico Macias.
Enrico Macias, bonne réponse. Bonne réponse de Fabrice Éboué.
Mais je crois qu'il a démenti.
Il aurait démenti. Ouais. Enrico n'aurait pas été la cible d'un tir. Il n'aurait pas été blessé. La brigade criminelle de Paris a été chargée de l'enquête. Mais en tout cas, plusieurs passants, ça c'est vrai, se sont vus tirer dessus la semaine dernière, avenue de l'Opéra. Parmi lesquels, Enrico, mais qui n'était là qu'en tant que témoin. Il n'a pas été blessé, touché. Et c'est pas lui qu'on visait, alors qu'il se trouvait près de la station de métro Pyramide. Jeudi, un homme a reçu le même type de projectile en plein visage, au même endroit. Dimanche après-midi, deux touristes ont été légèrement atteints. Il y aurait donc un tireur fou du côté de l'avenue de l'Opéra. C'est pas le genre de quartier d'habitude où on tire.
Enfin, il tire avec des petits plombs.
Mais c'est ça.
Avec
la des petits
plombs. Il s'appellerait pas Varicelle, le mec.
Mais non, mais moi j'ai peur. Ma sœur travaille sur cette avenue.
C'est peut-être elle qui tire. Hein.
Oh non. Bon, bah,
mais elle travaille sur cette avenue, mais elle fait pas plus de 4-5 heures de trottoir par jour.
Maximum.
Est-ce que vous êtes bête?
Le chanteur Enrico Macias, qui habite dans le quartier, a démenti avoir été blessé, comme l'affirmait le Parisien.fr ou le site internet du journal. Effectivement, prétendait que le pistolet à plomb avait touché Enrico. Bon, ça ajoute du sel à l'info.
Bah
quoi.
Oui, parce que sinon, on n'aurait jamais retenu quoi.
Ah, oh, bah quand même, un type qui tire à plomb.
C'est des plombs, on a tous eu des.
Ouais, c'est peut-être des enfants, quoi.
C'est des enfants.
Ouais. Ah oui. Ça peut pas tuer.
Non. Bah, dans l'œil, ça peut piquer un peu, mais sinon, non, ça
comment
tue pas.
Comment ça, c'est des enfants? Les enfants tirent à plomb.
Mais oui, c'est les petits air comprimés.
Il y a des jeux avec des tirs,
pneumatires, ça s'appelle.
Bien sûr.
Toc, toc. Cela dit, Rico Bastien,
ça s'appelle une.
Vous allez raconter une histoire.
Tac, 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 tac.
C'est quand même fou quand même hein, qu'une info puisse comme ça être démentie alors que elle est très précise au départ. Enrico a essuyé des plombs qui ont troué la manche de son manteau.
Faut quand même, c'est précis.
C'est quand même très précis. Hein. Malheur à celui qui blesse Enrico, avenue de l'Opéra en tirant au plomb. Vous connaissez cette chanson, elle était jolie. Hein. Non mais Enrico a eu un très joli répertoire de chansons quand même. Hein.
Ah mais attendez, moi j'adore.
Ah.
J'adore l'homme. Et ses chansons.
Ah, laquelle par exemple d'Enrico?
Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays.
De Sarkozy. Ah oui, c'est vrai qu'il avait trop.
Moi, je connais que celle-là, tu sais.
Bon, en tout cas, on est content qu'Enrico aille mieux vu qu'il n'avait rien eu.
D'accord.
Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi?
J'aime bien les qui a dit quoi. Puis généralement, ça va assez vite, la réponse. C'est comme pour Guéretz tout à l'heure. Mais là, on sort du football. Qui a dit, l'accusation dirigée contre moi n'est pas seulement inspirée par l'appétit de pouvoir, elle vise aussi à abuser mes lecteurs.
Platini?
Non.
Mes lecteurs? Les lecteurs de Platini?
Non.
Quelqu'un qui écrit dans un journal?
Non.
Un auteur, donc, enfin, un auteur de roman, de bouquin.
Non. C'est quelqu'un qui vient d'écrire un roman, mais qui n'est pas un écrivain.
Non.
Il n'écrit pas de roman, habituellement.
Est-ce que c'est un Français qui a dit ça?
Non.
Non. Ah, non.
Est-ce que c'est un Français? Oui, je crois qu'il est Français.
On peut répéter, si vous
voulez. Ah, vous croyez?
L'accusation dirigée contre moi n'est pas seulement inspirée par l'appétit de pouvoir, elle vise à abuser mes lecteurs.
Mais où est-ce qu'on peut le lire?
Et il dénonce au passage, de la part de sa fille,
Uderzo ici en premier.
Ben, ouais, ici que je dise la fille pour que vous sachiez qu'il s'agit d'Albert Uderzo. Bonne réponse de Caroline Diamant et Fabrice Éboué.
Bah, ils se font des trucs.
Ça va mal dans les familles en ce moment.
Non, ils s'engueulent par médias interposés. Uderzo et sa fille.
Il dénonce au passage de la part de sa fille une campagne où l'indignité filiale se dispute à l'esprit de lucre, dit-il. Et c'est vrai que plus ça va, plus les enfants réclament le pognon des parents avant que les parents décèdent.
Non mais attendez.
Vous avez remarqué ça?
Oui, et c'est vrai qu'il y a. Non, c'est Madame Bettencourt, c'est ça
aussi. Elle est jalouse de la fille de Goscinny. Goscinny étant mort il y a 30 ans.
Oui,
Goscinny et Uderzo, c'est la planche à billets. Et Mademoiselle Goscinny, elle gagne des milliards, tandis qu'Uderzo, c'est toujours lui qui gagne.
Il a 81 ans, Albert Uderzo, mais vous avez raison, Pierre, c'est terrible. Presque ce qu'elle regrette, c'est qu'il soit encore vivant, quoi, en gros.
Non, on peut pas dire ça, mais enfin, quand même.
Et lui a vendu les droits à Hachette, en fait, c'est ça l'histoire.
Exactement, c'est ce qu'elle lui reproche, d'ailleurs. Et il sera d'ailleurs possible que d'autres dessinateurs dessinent Astérix après la mort d'Albert Uderzo. C'est ce que
c'est ce qu'elle reproche.
Elle reproche à son père, parce que il a souvent et longtemps dit le contraire, mais après tout, s'il a changé d'avis, il a le droit.
Non, ce qui est dramatique, c'est cette histoire de laisser dessiner Astérix par n'importe qui. T'imagines, par exemple, si Gueuluc se met à dessiner Astérix.
Avec des moustaches
que Milou va avoir, je veux dire. si Milou commence à ressembler à un chat, on n'a pas fini.
Quoi. T'as vu Milou dans Astérix,
Milou,
toi?
Milou dans Astérix.
Ouais.
Avec le capitaine Haddock aussi, non?
Ouais, bien sûr. Comment il s'appelle? Idéfix, pardon.
Un chien est un chien, ouais, peu importe son nom. Hein. Si je vous dis que le week-end dernier, Jérôme Sédou a poussé un grand coup de gueule, pour quelle raison?
C'est un sportif?
Non.
Mais non, c'est un patron de cinéma.
Exact.
C'est,
oui. Il est à l'Alpe d'Huez.
La Gaumont.
Parce que les ch'tis n'ont pas été nominés pour les Césars?
Parce que les ch'tis ont été oubliés des Césars. Bonne réponse de Fabrice Eboué, effectivement. Jérôme Sédou est le coproducteur de Bienvenue chez les Ch'tis, patron de Pâté, et quand il a pris connaissance de la sélection des Césars, il a poussé un coup de gueule, il a même dit que c'était mépriser les spectateurs de ne pas avoir sélectionné les Ch'tis. Il y a quand même une nomination pour le scénario, je crois. Et après tout, est-ce que c'est pas la meilleure des nominations?
Puisque c'est une nomination très noble.
Il vaut mieux que ce soit pour ça que pour la lumière, quoi.
Voilà.
Bah oui, le meilleur scénario.
Nominé pour le scénar, c'est pas mal, déjà.
Bah, c'est extraordinaire. Ouais,
et d'un autre côté, sans porter le jugement, on dit toujours que ce genre de jury sont arrangés, sont truqués, tout ça. Ça prouve bien qu'ils ont une indépendance totale, puisqu'ils ne vont pas dans le sens du grand public.
Oui, mais leur avis quand même est assez parfois étonnant ou curieux. C'est vrai qu'il y a parfois des Césars pour un film, plusieurs Césars pour un film qui méritent pas vraiment, et que de temps en temps, c'est quand même aussi étonnant de voir certains films qui ont attiré de très nombreux, là, 20 millions de spectateurs.
C'est pas étonnant. Ils sont peut-être pour la qualité,
oui, mais
certaines qualités
critères,
du cinéma.
Ils sont peut-être,
c'est pas Citizen Kane non plus, les chéris.
La comparaison.
On n'est pas obligé de dire oui, c'est ce qu'il y a de mieux. On peut dire ça a eu un beau succès et c'est assez amusant. Qu'est-ce que vous préférez? Et tu dis autre chose.
Non, c'est pas ça. C'est simplement une reconnaissance. C'est que dans l'histoire de César.
Il a déjà eu la reconnaissance avec le public.
Oui, mais de la profession, du métier. Moi, je suis pas loin de penser quand même que c'est pas tout à fait normal.
Mais attendez, quand il y a un film chiant, il a plus de chances de gagner. Quand l'actrice est moche, elle a plus de chances.
Non, n'allons pas là-dedans.
Il y a des proches
de César.
Bah voilà, attendez.
Mais
pourquoi? Mais parce qu'on est français, parce que c'est comme ça depuis des années.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce côté poujadiste, là? Ah, dès que c'est mauvais, dès que c'est un mode de
Valak. J'ai pas dit mauvais.
Un mode de Valak, et que c'est incompréhensible, alors on a le prix. Et nos ch'tis, tant pis pour nos ch'tis. Ils ont eu 24 millions de spectateurs, on n'a plus rien à leur donner comme prix.
Ils ont déjà les ch'tis, la varicelle, on va pas leur donner un César encore en plus, ça va. Mais voilà. Les récompenses, c'est pour les gens pour qui ça ne marche pas, on le sait, je veux dire. Quand t'avais les encouragements à l'école, c'était les nuls qui galéraient.
C'est pas vrai, moi je les avais parce que j'étais meilleur.
Non, parce que t'étais nul, on lui dit on va lui faire plaisir, la peau elle est pas très futée.
Mais pas du tout. Pauvre tâche.
On ne dit pas pauvre tâche à monsieur Eboué juste le moment où il est d'accord avec moi.
Dans ton cul, comme Titoff tout à l'heure.
Non.
À qui?
Je suis obligé d'interrompre.
Non.
D'interrompre cette discussion.
Non.
Et on se retrouve après le flash.
Laurent Ruquier.
C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Caroline Diamant, Vikash Dorasso, Titoff, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. Et au téléphone, Christine et Baptiste. Bonjour Christine.
Ah bonjour Laurent, qu'est-ce que je suis contente de vous avoir.
Et nous alors?
Oh bah ça voilà. Fait plaisir de vous entendre, d'avoir cette voix si joyeuse.
Je dirais Catherine Barmard, reparlez encore.
Dites-moi bonjour Pierre, pour me faire plaisir.
Moi aussi ma chérie, ça me fait bien plaisir.
Oh je suis contente de vous avoir.
Moi aussi, moi je vous aurai bientôt d'ailleurs.
Mais vous êtes fou,
pour dîner à la maison.
Ça commence bien.
Saint-Julien de Concel, ça se trouve où ça?
Alors ça, c'est près de Nantes, mon cher Laurent. C'est en fait, c'est le pays du muguet, du muscadet, etc.
C'est entre Nantes et Montaigu.
Qu'est-ce que vous faites à Saint-Julien-de-Concel, à part renifler le muguet?
Laurent, c'est assez compliqué. En fait,
aïe.
Si je devais choisir, je dirais comédienne.
Comédienne.
Oui.
Non, mais dans la vie,
tu peux nous jouer la colère, là, rapidement?
Non, mais arrête.
Allez, juste un petit coup, là.
Non, Fabrice, je t'adore. Je trouve que tu es le nouveau des proches.
Oh, j'aime
beaucoup ce que tu fais.
Ça va bien finir.
Vous, elle joue bien, hein. Elle joue très bien la comédie.
C'est ça, Fabrice. On avait dit la colère, pas le mensonge.
Non, mais elle fait bien l'hypocrisie.
Je joue, hein.
De quoi?
J'ai dit pouille-pouille, je joue.
Ah oui, non.
Je joue, tu es le nouveau Thierry Leluron. Hein.
Christine,
nouveau Fernandel.
Marine Monroe, hein, voilà.
J'allais le dire, c'est dingue.
Et puis Pierre, tu es l'ancien Coluche, quoi.
Christine, vous allez affronter Baptiste.
Bonjour Laurent.
Bonjour Baptiste.
Salut Baptiste. Bonjour à tous.
Vous êtes à Ponto de Mer.
Dans le RER.
En Seine-Maritime. Ah non, dans le RER. C'est de l'autre côté de l'eau, comme on dit chez nous.
De l'autre côté de l'eau, à 20 minutes d'Honfleur.
Oui, c'est vrai. D'accord. Que c'est pas si loin de la Seine-Maritime, mais enfin, c'est dans l'Eure, après tout. Et qu'est-ce que vous faites à Ponto de Mer?
J'ai travaillé sur la côte à Deauville, dans un hôtel très connu où sans doute vous avez passé vos vacances.
Ah oui, lequel?
Le Normandie.
Exactement.
Ah ouais.
Mais qu'est-ce que vous faites dans l'hôtel?
Du service dans un restaurant.
Racontez-nous des trucs. Alors, quel client insupportable vous avez eu?
Ouais.
J'en ai vu quelques-uns de connus, comme j'ai aperçu Brad Pitt.
Ah oui, il était insupportable, Brad Pitt?
Je l'ai aperçu, mais il avait pas l'air très sympathique.
Ah oui, d'accord, c'est juste à la gueule. Quoi.
C'est ça, ouais, voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il est con, Brad Pitt.
Ouais. Ah ouais, il faut rien de la journée.
Exactement.
On appelle Brad Pitt Bull, on dit tout le temps.
Qui d'autre?
David Ginola.
Ah, ça c'est peut-être un copain de Dorasso.
Assez sympathique. Trop,
non. Hein, et sympathique, Ginola.
Ouais, ça allait.
Non, mais c'est des pas sympas, nous, qui non, nous intéressent.
Non, oui, dis-nous, mais Ginola, quand il marchait, tout ça, ses cheveux, ils bougeaient bien.
Ouais.
Comme dans la pub.
Qui d'autre?
Daniela Lombroso, par exemple.
Sympathique?
Oui, très aimable.
Ah, oh, ah c'était pas elle.
C'est un sosie, c'est comme pour Lormanodou, c'est pareil.
Qui d'autre?
Dans l'hôtel, après, pas forcément des stars, mais soyez des c'est une clientèle assez âgée.
Qui c'est qui laisse les plus gros pourboires?
Ah, ils sont radins. Plus ils sont riches, plus ils sont radins.
Ah, oui, ça.
Il y a des histoires de coucherie, parfois des trucs rigolos?
Non, moi je reste dans le restaurant, donc j'ai pas été voir dans les chambres.
Il va pas vraiment retrouver du travail à l'hôtel Normandie. Non, c'est une déclaration sur Europe 1.
C'est vrai, j'avais oublié.
Il va changer de région. Vous êtes grillé sur cette région.
Christine c'est contre Baptiste. Est-ce que vous êtes prêts l'un et l'autre?
Prêt.
La question. Prête, en tout cas. Si je vous dis que dimanche, Fabio Fazio a réussi quelque chose que d'autres animateurs lui envient. Quoi donc?
Il a eu un invité particulier?
Oui.
Attends, c'est la télé italienne, il y avait Carla Bruni sur la télé italienne.
C'est-à-dire
donc il a interviewé Carla Bruni.
Bonne réponse de Joujou.
En disant qu'elle était pour rien dans
la littérature. C'est trop tard. Alors, si tu as perdu, tu peux jouer la colère maintenant.
Essaye la dépression pour voir.
C'est une bonne réponse de Jérémy Michalak. Plus rapide encore. Il y a eu un petit temps de 3-4 secondes où vous pouviez vous glisser quand même.
Je trouve qu'elle a été bousculée là.
Ah oui,
mais Christine... Parce qu'elle le savait, elle a commencé à dire.
Ah oui, moi je le savais, j'étais.
Et l'autre est arrivé comme un bulldozer.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai
ce qui s'est passé.
C'est une brute ce type. Sous ses dehors. Discret, c'est une brute.
Ben, vous allez raccrocher, Christine, et puis le jour où on passe à Nantes, peut-être pour le festival Juste pour rire, on vient vous embrasser à Saint-Julien-de-Concel.
Bah, appelez-moi sur mon portable.
Quel âge tu as, Christine?
Je suis une vieille.
C'est-à-dire 18, 19
ans.
Ah ouais,
46 ans.
Ah ouais. Là, ça vous intéresse moins là, hein.
Ouais, d'un coup, là, Non, arrête, 46 ans, ça commence à être le bon âge pour une comédienne.
J'ai l'âge de Laurent, mais je fais jamais.
On peut se la partager à deux à Kitos, c'est 23-23, quoi.
Mais enfin, ça va pas, comment vous parlez des femmes.
Quelle horreur.
Non, n'importe quoi. Vous avez une voix très jeune.
Hier, vous avez été un petit peu enfoirée avec l'auditrice que vous avez eue.
Ah bon, qu'est-ce qu'on a dit?
Ah oui, parce qu'en fait, elle appelait d'une région touchée par la tempête. Oui. Pas un mot de réconfort et tout, je me suis purée les enfoirés.
Quoi? Christine, tu peux nous jouer le silence un petit peu?
J'ai du mal.
Allez, on vous embrasse, Christine, et vous aussi, Baptiste, du côté de Ponto de Mer. Et on souhaite que vous retrouviez très vite un emploi, Baptiste.
Merci.
Merci à tous les deux.
On va gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Vikesh Dorasso, Jérémy Michalak, Armin Diamant, Fabrice Eboué et Titoff.
Europe 1. La question tirée par les cheveux. Spécial Laurent Ruquier.
Il y en a 485 000 en France et 60% d'entre eux ont plus de 20 ans. Et c'est là le problème.
Le problème, c'est qu'ils aient plus de 20 ans.
Oui.
Ah, s'ils avaient moins de 20 ans, ce serait pas un souci.
Non. Il y en a 485 000 en France et le problème, c'est qu'ils ont plus de 20 ans.
Et ben des lycéens?
Pour 60% d'entre eux. Non, des lycéens. Non,
ouais, des collégiens.
Et ben oui, c'est grave non, s'ils ont plus de 20 ans, justement.
60% de lycéens qui auraient plus de 20 ans.
Et ben c'est pour ça que c'est grave.
Des mecs en CM2.
Il n'y aurait que 485 000 lycéens en France. Ouais. Je pense que ce sont les illettrés.
Pas du tout. Ils sont 485 000 en France. 60% d'entre eux ont plus de 20 ans. Et c'est ça le problème.
Des puceaux?
Non.
Pourquoi c'est un problème?
Ah bah.
C'est des fans de Laurie, quelque chose comme ça?
Je veux la réponse, en fait.
Ok, donc il y a à peu près. Il y a à peu près 250 ou 300 000 personnes, puisque 60%, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font, ces 300 000 personnes?
Ils ont
la varicelle.
Ils sont atteints d'acné juvénile.
Non, pas du tout.
Est-ce qu'ils ont une particularité physique qu'ils ne devraient pas avoir?
Je pense que vous devez réécouter la question.
Ok.
Europe 1. La question tirée par les cheveux. Spécial Laurent Ruquier.
Voilà, hein,
on écoute.
Ça faut se méfier, il faut bien écouter les jingles parce que ça peut vous aider, vous voyez, pour
tirer
la suite.
Tirer par les cheveux, ça peut aider.
Pas au premier des
chauves,
degré, quoi.
C'est des chauves.
C'est une question tordue.
Non, c'est une question tordue.
Tordue.
Ah. Ils sont 485 000 en France. Le problème, c'est que 60% d'entre eux ont plus de 20 ans.
Ok, est-ce qu'on parle d'êtres humains?
Non.
Eh ben voilà. On parle de quoi alors?
Des chiens?
Non.
Pas des chiens. Est-ce qu'on parle d'un animal?
Non.
Non, genre des ascenseurs ou un truc comme ça.
Des ascenseurs! Bonne réponse de Jérémy Michalak!
Je l'ai aidé quand même.
Les ascenseurs. Il y a 480 000 ascenseurs en France, 485 000 pour être précis. Et effectivement, 60% du parc des ascenseurs a plus de 20 ans. Nous avons les ascenseurs les plus vétustes d'Europe
du
chez
monde,
nous.
Du monde, je pense.
Donc 40% des ascenseurs sont mineurs.
Au moins de 20 ans. Ouais.
C'est énorme. Mais les ascenseurs à Paris, moi, ce que j'ai jamais compris, c'est qu'ils te mettent un ascenseur, mais même tout seul, t'as du mal à rentrer dedans. Tu ouvres la grille, hop, le truc de sécurité qui s'ouvre, et c'est ou le sac ou toi, quoi.
pas les deux.
C'est ou l'un ou l'autre. En fait, tu dois choisir où c'est ton sac qui prend l'ascenseur ou c'est toi, quoi. Mais les deux en même temps, tu peux pas.
Bah, en tout cas, ça gâche la vie de nombreux habitants parce que, effectivement, en banlieue, à Grigny, par exemple, il y a une panne depuis des mois et des mois et personne ne vient réparer les ascenseurs. Et les gens, par exemple, sont depuis 4 mois à monter 11 étages à Grigny.
Et à Marseille, carrément, il y avait un reportage sur ça dans une des cités.
Les mecs passent par les toits.
Ils sont obligés de passer par les toits de l'autre immeuble. Ouais,
mais rappelons que c'est les pauvres qui ont le plus de problèmes de surpoids, donc c'est pas une mauvaise chose non plus.
C'est bon pour le cholestérol. Voilà, t'as raison. Ouais.
Vicache d'ascenseur, est-ce que vous avez un avis?
Oh non.
Laurent Ruquier tous les jours sur Europe 1.
Si vous voulez que je souligne, vous dites.
Elle était très bonne celle-là, Laurent.
Il a surtout du mal à monter avec son sac à dos, Rasso.
Pierre Bénichoux tous les jours sur Europe 1.
Non, mais on essaye, Laurent et moi, de vous montrer ce que c'est que la vieille école.
On a bien compris, là.
Tout ce qui rentre, c'est vente.
Pauline. Ah, on est Pauline ou Pierre?
Ouais, oui, on a eu une autre éducation que ces mecs-là. On sait même pas d'où ça sort, d'ailleurs. Oui.
Le kiné ne veut pas monter les étages, témoigne, par exemple, une habitante de Grigny du 10e.
Ah, le kiné, c'est un peu comme ma sœur.
Oh non.
Elle veut pas monter les étables non plus, ma sœur.
Une femme de ménage qui dit le seau est lourd. Nous avons aussi quelqu'un qui a un bébé de 18 mois et qui, évidemment, doit porter le bébé pour monter jusqu'au 11e étage. C'est pas de chance. Quand on habite le premier, évidemment,
on s'en fout.
Non, mais ça, c'est sûr.
Pas de problème.
On peut pas monter le bébé, elle n'avait qu'à pas se faire baiser aussi, merde.
finalement, c'est bien l'ancienne école.
La vieille école, elle est propre. Hein.
Caroline, vous rentrez, vous dans... Enfin, je veux dire.
Est-ce que je rentre dans un ascenseur?
Elle a un monde charge chez elle.
Non, mais il a pas tout à fait tort, Titoff, parce qu'il y a des ascenseurs. C'est pas que vous rentrez pas dedans, c'est la difficulté à passer entre les deux battants.
Mais non, mais c'est pas ça. C'est que si tu mets ta machine à laver quand tu déménages, parfois elle rentre, mais comme il y a les battants qui s'ouvrent que dans un seul sens, elle peut plus sortir. Oui, et là, exactement. Tu niques l'ascenseur.
On parle des vieux ascenseurs.
Pas Caroline avec une machine à laver.
Pardon.
Non, mais attendez. D'abord, moi, je trouve que ces vieux ascenseurs sont très rassurants. Les autres, j'aime.
Rassurants?
Bah oui.
Ah oui, il y en a plein qui disent ça.
C'est vrai. Si tu tombes en panne, on t'entend, tu peux parler, c'est pas complètement hermétique. Maintenant, c'est vrai que j'ai habité un 6e étage et l'ascenseur était en panne 1 mois pendant que j'étais enceinte. Je comprends, je partage la douleur de ces gens-là.
Mais c'est très long à remettre aux normes en plus. Hein. Moi, je sais qu'ils sont
en train de... Ça met un mois, je sais que chez moi, on est en train de le mettre aux normes.
Ah, putain, moi, ils me le font.
C'est un ascenseur tout petit, on entre à deux, mais comme ça, vraiment, il faut être.
C'est ça qui est
bien. Et quand t'as oublié quand t'as pas les chewing-gum, tu sais que tu te parles comme ça.
Et ça met exactement 6 semaines.
Pour monter?
Mise aux normes.
Pour avoir envie d'y
aller.
Oui, il faut prévoir quoi, un peu de rafraîchissement.
6 semaines pour monter chez Pierre.
C'est l'ancienne école.
C'est,
ah ouais.
C'est la pour ça que école. Je vois ma femme deux fois par an.
Il faut prévoir une petite sucrerie.
Pourquoi Nicolas Sarkozy attend-il avec impatience la date du 2 avril prochain?
Il rencontrera Barack Obama au
G20.
Au G20.
Au G20.
Bonne réponse collective.
Bon, il va au budget G20.
Et au supermarché.
Il n'a pas encore rencontré le président Sarkozy. Qu'est-ce que vous avez dit?
Il va au musée G20. J'adore. Il va au musée G20.
Nicolas Sarkozy a reçu un coup de fil quand même du président des États-Unis. Ils se sont parlé, ça s'est bien passé, paraît-il. Bon, il n'y a pas que lui hein, qui l'a appelé. Obama a aussi appelé Madame Merkel, Monsieur Medvedev, et il a quand même passé près de 35 minutes au téléphone avec Nicolas Sarkozy. Un entretien chaleureux, selon l'Élysée. Mais la rencontre entre Sarkozy et Obama, eh bien le président l'attend évidemment avec impatience. Ça se fera, mais pas en intimité, puisqu'il y aura effectivement 18 autres chefs d'État, puisque c'est ainsi. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ça le G20. Ce sera à Londres le 2 avril prochain. Non,
je trouve qu'il est vraiment de bonne composition de bien aimer le président américain, Sarkozy.
Pourquoi?
Parce qu'il lui a tout piqué, Obama. Sarkozy, il avait cette façon de gouverner autrement, d'être près des gens, de parler un langage clair, d'être habillé comme ça. Et l'autre lui a fait tout ça en 5 fois plus grand, parce que c'est l'Amérique. Donc il devrait le haïr, et je crois qu'il le hait. Il lui prêtera pas sa femme, il lui donnera rien.
Restons aux États-Unis, puisque je voudrais vous faire rencontrer Katie Stam. Katie Stam est présente sur toutes les chaînes de télé depuis quelques jours, et le public et les téléspectateurs en sont ravis. Qui est Katie Stam?
C'est pas la cinglée qui a mis au monde 8 enfants quand
non.
même.
Non.
C'est une Miss, je crois que c'est une Miss de je sais plus quel état aux États-Unis qui est devenue probablement Miss Amérique ou Miss Monde.
C'est Miss,
Miss
Monde.
Amérique.
Non, Miss Amérique.
Miss Amérique, Miss United States of America 2009 vient d'être élue. C'est Katie Stam qui était au départ Miss Indiana. Elle a 22 ans. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, vous voulez la voir?
Ah bah oui, on va.
Elle est pas mal.
Elle est pas mal, ah, la photo.
On espère.
C'était samedi soir dernier sur la chaîne de télévision TLC, c'est ça?
Je connais absolument.
Pas. Et les prétendantes, comme chaque année.
TMC.
Non, TLC. Les prétendantes sont venues vêtues, habillées, enfin, je veux dire, et puis un peu plus déshabillées. Enfin, c'est comme tous les concours de Miss.
Comme chez nous.
C'est une étudiante qui a gagné. Elle a 22 ans. Elle était Miss.
Et elle est pour la paix dans le monde, je crois.
Indiana.
Celle qui est bien, c'est celle qui fait avec De Chavanne sur TF1, là.
Victoria Silvstedt.
Oui. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. T'as vu comment elle marche?
Waouh.
Non, elle est fantastique comme
gonzesse. Son nom est imprononçable. Comment elle s'appelle?
Silvstedt, c'est ça?
Silvstedt.
Et c'est vous regardez Victoria. Ça, vous regardez la roue de la fortune, vous, Pierre Bénichou. Bah
depuis, qu'elle est là, oui.
Ah ouais.
Je regarde pas le petit, là, je fais comme ça avec la main, je vois la grande qui passe, c'est une merveille.
Je fais comme ça avec la main, pour cacher sur la télé.
Non, mais elle est belle, hein.
Du coup, t'as les deux mains prises, quoi.
Elle est presque aussi bien que la. Comment elle s'appelle, la grande qui est mariée qu'un footballeur?
Ah, Carambeu.
Carambeau.
Tu aimes bien ce genre de femme?
Non, je préfère toi, mais tu veux pas.
C'est bien une américaine, hein?
Ah oui, pourquoi?
Parce que quand elles sont contentes, toutes les actrices ou les américaines, elles ouvrent la bouche très grand et elles crient comme ça. Vous avez pas...
Elles crient « Oh my God!
Oh my God! »
C'est ça, hein, c'est exactement ça la photo, là.
Bah, alors, donc, vous Caroline, voulez... vous auriez pu être Miss America.
Vous voulez nous faire...
Non, elle crie « Oh mon God! »
Non, mais vous êtes pas bien.
C'est devenu n'importe
c'est
quoi, Pierre.
C'est la nouvelle école, ça.
Non, mais c'est quand même vous qui les avez engagés.
Allez, on se retrouve après la pub.
Europe 1, on va se gêner.
Dorémy Fassi, Liado.
C'est vraiment terrible cette émission. Il se dit des aurores à l'antenne et hors antenne.
C'est encore pire.
Et c'est encore pire. Serge Liado, bonjour.
Bonjour.
Je vous rassure, c'est pas de vous dont on se moquait. Hein.
Je sais bien.
Pierre Benichou nous fait un jubilé hors antenne.
Non, parce que vous avez
il est énorme aujourd'hui hors antenne.
Vous avez vu sûrement la une du Parisien aujourd'hui qui est assez affolante, je dois dire, sur la. Non, mais c'est vrai, sur la cocaïne.
Oui, je l'ai sous les yeux.
Ah, voilà, dès 15 ans, ils sont accros à la cocaïne. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que juste en dessous, il y a la photo de Faudel, la résurrection de Faudel. Ça n'a aucun rapport. En plus, c'est le petit prince du rail, tout le monde le disait. Donc ça tombe
ça va
bien.
Avec.
Mais c'est vrai qu'en tout cas, on nous dit que dans les lycées et même dans les campagnes, désormais, on a beaucoup plus facilement accès à la cocaïne, qu'elle est évidemment beaucoup moins cher qu'avant. C'est la raison pour laquelle les jeunes
à la campagne.
C'est pour ça qu'on ne trouve plus pour nous. C'est les gosses qui la prennent maintenant. C'est honteux de tout leur donner aux gosses.
Pierrot, de notre temps, on préférait être accro à la coquine.
Ah oui. C'est bien. Alors toi, c'est avant l'ancienne école. C'est la préhistoire du monde.
C'est la Jurassic School. Oui.
Dans la série Pourquoi Champy et pas moi.
T'as vu qu'il y a eu le bruitage, père, hein, la coquine.
Il y a la totale.
Serge, là, vous aviez bien démarré, puis voyez, ça y est. Au départ, on se foutait pas de votre gueule, hein, je vous jure. Non, c'est seulement qu'après.
Eh ben oui.
James Brown contre Prince et Helen Smith. Ah. Ce sont les chansons du jour que vous comparez. Pour quelle raison ? Parce qu'elles se ressemblent, évidemment.
Oui, c'est ça. C'est un peu comme dans la peinture. Il y a quelqu'un qui copie quelqu'un, qui copie quelqu'un. Et ça s'est passé comme ça. Il y a cette chanteuse noire qui s'appelle Helen Smith, qui a écrit une chanson intitulée « You Got to Be a Man » en 1967. Et c'était un plagiat, une démarcation très nette de « Papa's Got a Brand New Bag » qui était de James Brown et qui est daté de 1965. Et il semblerait que Prince, qui devait écrire pour un groupe pour lequel il écrivait déjà des chansons, il était un peu à court et, ma foi, il a plagié le plagiat, ce qui fait que Papa's Got a Brand New Bag est le papa de You Got to Be a Man, qui elle-même a inspiré la chanson de Prince, Kiss, qui date de 1985.
On n'a pas tout compris, mais quand même, on va entendre James Brown, puis Helen Smith, puis Prince.
1.
If you can do all these things, you're showing up uptight.
3.
Don't have to be beautiful to turn me on. Just need you to find me. I'm gonna show you what it's all about now.
Serge,
oh,
on s'est régalé trois fois, hein.
Ouais.
Ben voilà.
Papa,
ben
j'ai jamais vu deux chansons qui se ressemblent aussi peu.
Et en plus, il y en avait trois.
Quel mauvais esprit.
Non, mais
je veux dire forcément une qui ressemble à l'autre puisqu'il y en avait trois. Et vous dites que vous n'avez jamais vu deux.
Tout ce qu'on a entendu était formidable pour comme ça n'arrive pas souvent.
On
dansait de Rasso, on était sur la table tout nu, c'était formidable. Mais je trouve pas que ce soir ça se ressemble.
Un débat sur la motion de censure donne à François Fillon l'occasion de monter au créneau, puisque vous le savez, le fameux article qui permet à l'opposition de censurer le gouvernement va être utilisé pour la 53e fois, l'article 49.2 de la procédure constitutionnelle, la motion de censure. Ça paraît compliqué comme ça, mais en chanson, ça passe mieux.
Ça faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu Sabinette, vu que c'est toujours le président qui est la vedette. On oublie qu'encore il existe le Premier ministre. C'est aujourd'hui à l'Assemblée qu'il a son petit quart d'heure de gloire. Pour lui, c'est le moment ou jamais de marquer l'histoire. Briller devant les journalistes, le Premier ministre. L'Assemblée, c'est le seul endroit où Sarko ne peut pas se rendre. Mais il va changer cette loi sans trop attendre. C'est le dernier bastion qui lui résiste, et ça l'attriste. Pour préserver le dodo de Fillon, on a rengouré sa banquette. Faut qu'il profite un maximum, car c'est peut-être un de ses derniers tours de piste, le Premier ministre.
Bravo Serge, jolie chanson. On va envoyer directement à Matignon, ça fera plaisir à monsieur Fillon. À demain, Serge, à la même heure. Je vous emmène du côté de Cândido Godói, c'est dans le sud du Brésil, et là-bas, Une naissance sur 5 donne des jumeaux blonds aux yeux bleus. Pour quelle raison?
Une naissance.
Parce qu'il y a une colonie de Suédois qui se sont installés dans la région.
C'est quoi? C'est des nazis pendant la guerre qui sont planqués en Amérique latine et ils font des gosses là-bas?
Alors là, vous êtes tout près de la bonne raison, réponse.
C'est vrai que pendant la guerre, après la guerre, tous les dictateurs sont allés.
Ce sont les enfants qui avaient été... Quand les nazis avaient pris les enfants pour en faire des purs ariens...
Ah, les bonnes
et ce sont les enfants qui sont nés pendant la guerre qui ont fait souche là-bas.
Non, c'est pas ce point.
Alors, il y a les nazis qui sont allés conseiller les dictatures de l'Amérique du Sud, c'est toute la descendance.
Alors, effectivement, c'est lié au régime nazi, et peut-être vous pouvez essayer de trouver qui s'est réfugié dans ce village de Candido Godoy pendant quelques années.
Ah, c'est un seul mec, il est tout seul. il a repeuplé la moitié du Brésil.
Non,
avec des
il a pas repeuplé.
Non, bah c'était...
Je
sais plus lesquels sont morts ou pas.
Il a utilisé du
docteur Mengele.
Le docteur Mengele, bonne réponse de Pierre Benichou.
Et moi je dis que tous les blonds sont des sales con, voilà.
Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait?
Eh ben, le docteur Mengele avait trouvé refuge dans ce village, médecin donc du régime nazi, chargé par Hitler de travailler sur la pureté de la race. Et effectivement, il aurait pu se livrer, il aurait pu à tout ça être au conditionnel. C'est un historien argentin qui tente d'expliquer la présence de tous ces jumeaux blonds aux yeux bleus.
Si ça se trouve, il y avait juste un queutard blond aux yeux bleus dans le coin.
Mais qui passait en vacances.
Mais c'est les jumeaux qui est étrange, c'est le fait qu'il y ait des jumeaux.
Candido Godoy pourrait avoir été le laboratoire de Mengele, le lieu où il aurait atteint ses vieux rêves de recréer une race arienne blonde aux yeux bleus. C'est ce qu'explique ce scientifique argentin. Des témoins affirment que Mengele a examiné plusieurs femmes et suivi leur grossesse en leur parlant d'insémination artificielle. Mengele est mort en 1979 au Brésil et il y aurait eu effectivement un taux depuis plus inhabituel de jumeaux blonds aux yeux bleus dans cette région.
Le comble dans tout ça, dans je sais plus combien de temps, il y aura plus de yeux bleus.
Comment vous savez ça?
Le métissage.
Ah oui.
La génétique va faire que on aura tous la tronche des bouées.
Bon, c'est pas pour ça qu'il faut dire.
C'est l'homme du futur.
Oui, oui.
C'était pas flagrant, mais
l'avenir, c'est ça.
Il y a une possibilité que ce soit vrai parce que c'est quand même troublant que le plus grand manipulateur génétique, plus grand immonde salaud de l'histoire, ait passé du temps dans cet endroit-là où il a exercé sa profession et qu'on y trouve une anomalie génétique.
Mon père est gynéco, par exemple, et la plupart de ses patientes accouchent de petits métis.
C'est bizarre.
C'est un mystère, quoi. De
c'est étonnant.
Ta mère doit aimer ton humour.
Sur une vanne, t'étais déshérité. C'est dommage de l'avoir toujours là-dessus.
On va se gêner. La question sport.
Qui fait suer?
Qui a marqué son premier but sous les couleurs rossoneri?
David Beckham.
Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors là...
Waouh, comment elle a dit?
Elle aurait fait flipo, je pense.
Alors, qu'est-ce qui vous
pas
arrive?
Pas du tout. J'étais devant Info Sport quand je l'ai vu marquer.
C'est une semaine qu'il a marqué?
Non, titulaire pour la deuxième fois avec le Milan AC. Et David Beckham a inscrit le week-end dernier son premier but avec le Milan AC. Il avait joué la dernière fois, mais il n'avait pas marqué. Oui, c'est... Et c'est même lui qui a marqué le premier but des quatre buts.
Beau but.
Qui opposait le Milan AC à Bologne. C'est Kaka qui a marqué les deux suivants et ensuite Seedorf, c'est ça?
Voilà. Seedorf.
Il va peut-être rester finalement au Milan AC, on nous dit.
Il repart pas aux États-Unis?
David Beckham.
Je crois que c'était pour deux mois.
Donc ça veut dire qu'à 33 ans, on peut être encore un grand champion.
J'aurais pu continuer à jouer.
Vous voyez?
Fallait commencer pour ça.
Ah, mais c'est le seul footballeur qui aime pas le sport. Wikipédia, tu cliques Dorasso, tu vas voir, tu vas kiffer.
J'ai proposé l'autre jour à Laurent que vous rachetiez, Laurent et toi, Le Havre.
Ouais.
Comme ça, vous rentreriez chez vous, vous ne nous emmerderiez plus ici. Et ensuite, vous êtes tous les deux amoureux de football. Vous êtes tous les deux des Havrais. Et je trouve que ça serait très bien.
Mais tu...
Combien ça vaut, là, un club comme ça, à ton avis?
5-6 millions d'euros.
Faut encore que je fasse deux primes.
Arrête, ça va ressortir. Après, ça va sortir. Ça va sortir comme une info. Laurent Ruquier prend.
C'est lui qui l'a dit.
1 million, c'est lui qui l'a dit sur Europe 1. Prend 1 million d'euros par émission.
Allez, un peu de musique sur Europe. C'est évidemment des chiffres erronés. Hein, je le dis pour Jean-Marc Morandini parce que.
et pour le Trésor public, bien sûr.
Robbie Williams, Phil, ça vous dit quelque chose? C'est pas un ordre, hein, c'est le titre de la chanson et c'est un standard qu'on écoute sur Europe 1 puisque c'était en 2002 que Robbie Williams interprétait ce fameux Phil.
Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou.
Jérôme Langillier.
Que on nous dirait un clébard quand même quand on voit ce jingle. C'est la récompense pour Joujou, un peu que c'est un os.
Jérôme Langillier, quelqu'un que nous aurons au téléphone dans quelques instants. Je dis dans quelques instants, tout dépend le temps que vous mettrez à répondre à cette question, évidemment, puisque Jérôme Langillier fait partie d'une équipe, une équipe gagnante. Quelle équipe gagnante ?
Handball. Oui,
non, c'est à Lyon que se déroulait le championnat de la pâtisserie et les Français ont gagné.
Alors, on voit le sport qui vous intéresse.
C'est pas vrai.
Bonne réponse de Fabrice Eboué.
Comment t'as retenu le nom du mec ?
La Coupe du Monde de pâtisserie avait lieu effectivement à Lyon. C'est la 11e Coupe du Monde de pâtisserie. C'est Raymond Domenech qui a fait la sélection puisqu'il sélectionne les plus tartes. Et dans le cadre du Salon de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation, ça se tient jusque demain à Lyon. Il y avait donc cette grande Coupe du Monde que vous avez gagnée. On peut être fier de l'équipe de France. Jérôme Langillier, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous étiez trois dans l'équipe, c'est ça ?
Voilà, on était trois. Donc Jérôme de Oliveira, Marc Rivière et moi-même.
Alors, quelqu'un du Plaza Athénée, c'est Jérôme de Oliveira. Quelqu'un de chez Potel et Chabot, c'est Marc Rivière. Voilà. Et vous, vous êtes traiteur, enfin, chez Clostan Traiteur à Lyon, c'est ça?
Voilà, tout à fait, oui.
Je veux les épouser tous les trois.
Mais, donc, uniquement des gâteaux, alors, si j'ai bien compris.
Oui, oui, en fait, on nous demandait donc de réaliser un entremets au chocolat. Un dessert assiette et un entremets glacé, donc après à inclure dans une pièce artistique. Donc une pièce artistique en sucre pour moi-même, une pièce artistique chocolat pour Jérôme de Oliveira et une sculpture sur glace pour Marc Rivière.
Comment ça se passe la compète alors? Parce que c'est ça qui m'intéresse moi, ça veut dire que vous êtes toutes les équipes à vous affronter en même temps avec un top chrono, c'est comment ça se passe?
Oui, en fait, ça se passe sur deux jours, il y a 11 équipes par jour. Et l'épreuve dure 10 heures, donc on commence le matin à 6h30 avec des horaires de dégustation imposés. Donc il y a un membre de jury par pays, donc 22 jurys qui attendent les horaires de dégustation pour pouvoir...
Quel pays est arrivé derrière nous, la France ?
L'Italie.
Ah, ce sont les Italiens qui ont été les meilleurs en pâtisserie après les Français.
Voilà, et le podium se complète par la Belgique.
Est-ce
voilà.
qu'avant de se présenter comme ça au championnat du monde, il vaut mieux être pâtissier ?
Avant d'être une vedette de la pâtisserie, est-ce qu'on fait comme pour une spécialité en médecine, est-ce qu'on est cuisinier d'abord et peu à peu on se spécialise dans la pâtisserie ou est-ce qu'on commence tout de suite dans le gâteau?
Non, on commence tout de suite dans la pâtisserie
direct.
Ça
direct.
On l'a depuis tout petit quoi. Voilà.
Mais vous faites pas du tout même une quiche Lorraine ou un truc comme ça?
Ah si pour m'amuser à la maison quoi, pour voilà pour.
Mais vous c'est le gâteau votre
truc. Voilà, mon métier c'est ça, c'est la pâtisserie.
Vous travaillez avec des gants ou vous lavez les mains?
On se lave les mains, mais on travaille aussi avec des gants. Voilà.
Bon, allez, un café, l'addition.
Et la compétition, vous êtes. Les équipes sont les unes à côté des autres ou pas?
Voilà, on a des boxes de 18 mètres carrés où on a tout notre matériel.
Mais est-ce que vous pouvez tacler l'adversaire?
Oui, voilà, c'est ça qu'on veut
savoir. Un coup de rouleau dans la gueule.
Non, on peut pas. On n'est pas.
Petit coup d'éclair, le chocolat dans l'œil.
On est séparés par des murs. Donc,
chacun son laboratoire.
Chacun son laboratoire. Donc, on voit à aucun moment ce que les autres réalisent, on entend juste les clameurs du public, c'est
et
tout.
Est-ce que les gens, depuis ce titre de champion du monde, est-ce que les gens ont changé dans la rue, l'attitude
C'est encore un peu tout frais, donc ça remonte à hier soir.
Défilé sur les Champs-Élysées, Jérôme, c'est ce que vous voulez savoir.
J'ai pas vu beaucoup de personnes, mis à part mes supporters hier soir.
Mais attendez, arrêtez. Non, moi j'aime pas ça.
Ah non, c'est pas sympa.
J'aime bien un champion du monde.
Ah, t'aimes bien les gâteaux?
Non, mais en 98, on a vu l'effet que ça a fait.
Non, mais vous rigolez pour Lyon. En tout cas, j'imagine que c'est important pour Jérôme Langillier parce que sur la vitrine de chez Clostan Traiteur, ce sera marqué évidemment Jérôme Langillier. Champion du monde.
Il y a une épreuve en solitaire ou c'est uniquement en équipe?
Non, c'est en équipe et voilà, il faut que l'équipe soit très soudée parce que c'est comme ça paraît un petit peu amusant la pâtisserie.
Non, mais
gâteaux,
non,
pas du tout.
Attendez, mettez-leur n'importe quel
passionné. Non, monsieur, non.
On n'est pas très drôle, mais de temps en temps, on a un éclair au chocolat.
C'est un métier de passion et il faut vraiment tout donner, quoi.
Moi, je suis avec vous, monsieur.
Je
vois Caroline et moi, on est baba.
Ah, mais ça nous a fouetté, hein, comme crème.
C'est l'ancienne école, vous inquiétez pas.
Ta gueule, toi.
Ça va,
la nouvelle école, ça va. Il y a du dopage?
Non, il y a pas de chômage.
C'est quoi, vous ?
On se prépare physiquement et psychologiquement surtout, parce que c'est très éprouvant.
Allez, on vous applaudit de toute façon. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde de pâtisserie. C'est toujours ça. On n'a pas encore le handball, mais ça devrait devenir quand même. Oh, Fabrice, qu'est-ce qu'il y a ?
Vous voulez chanter un petit hymne national ?
Alors, allez-y.
Allons enfants de la pâtisserie, le jour de gloire.
C'est la vieille école. Vous êtes... Merci, on vous applaudit, Jérôme. Il est né au pied de l'Himalaya avant d'arriver en Europe seulement au XVIIe siècle.
C'est pas l'Yéti, parce qu'il n'est pas arrivé jusqu'ici.
Non, il est né au pied de l'Himalaya avant d'arriver en Europe au XVIIe siècle.
Ok, c'est pas un être humain.
Non.
Non, c'est un jeu ou un sport.
Non.
C'est le café.
Non.
C'est un animal.
Non.
Non.
C'est des raquettes.
C'est une chose.
Il mesure entre 3 et 12 centimètres.
Ah, le pénis de Michalak.
Quand vous allez savoir ce que c'est, je peux vous dire que ça n'a pas le même goût.
C'est beaucoup.
C'est un
le cornichon.
Bonne réponse de Tita.
Non.
C'est le seul qui a goûté.
J'appelle à la triche. C'est impossible. Ah, c'est impossible.
Chaque fois que j'ai regardé, je me suis gouré de lignes.
C'est pour ça que c'est un goût d'asperge peut-être. Ouais. Pourquoi comme par hasard le cornichon tout de suite?
On peut parler d'autre chose que on peut parler d'autre chose que du goût de ma bite ou pas? Juste pour savoir.
Mais non.
Il peut être lisse et épineux.
Donc on y vient.
Entre 3 et 12 cm, il est né au pied de l'Himalaya, le cornichon.
Il est très très vieux.
Le cornichon a d'abord été cultivé en Inde, cher Vikash Dorasso. Vous le saviez, ça ?
Bien sûr.
Le cornichon vient de chez vous, Vikash.
Bah, tu vois qu'il n'y a pas que les cacahuètes, évidemment.
Il n'y a pas que les châtaignes.
C'est écrit dans l'article. En fait, c'est un jeune concombre, le cornichon. Faut le savoir.
Comment ça, c'est un jeune concombre?
Bah oui, c'est un concombre qui n'a pas poussé.
C'est comme vous.
C'est un concombre qui n'a pas fait sa puberté, quoi.
Voilà, le cornichon est un concombre qui n'a pas poussé.
Ah oui.
Il y a 3000 ans, il a été cultivé en Inde. Ensuite, il a commencé à nous envahir.
Comme nous.
C'est l'invasion du cornichon.
Pour bientôt.
On est en 1900.
En passant par l'Égypte.
Ah oui, ça.
C'est invité sur les tables d'Europe au XVIIe siècle. C'est le roi soleil qui l'a fait cultiver pour pouvoir en déguster dès le mois d'avril. Et le Cucumis sativus, c'est son nom latin.
C'est comme ça que je l'appelle, moi.
Est en fait un concombre juvénile. Pierre, en tout cas, voilà, vous en savez un peu plus sur les cornichons.
Ah, oh bah ouais, maintenant, je suis imbattable sur le cornichon.
Moi, je les conserve, ici, en tout cas. Un homme s'est fait retirer quelque chose de la taille d'une noix de coco. C'est en Hongrie que ça
c'est
se
gros.
Passe. 17 cm de diamètre. De quoi s'agissait-il?
Bah, c'était pas une noix de coco.
Non.
C'est quelque chose qu'on lui avait mis à l'intérieur?
Non.
C'est quelque chose qu'il avait. Bon, c'est pas genre un truc douteux, genre une grosse tumeur de 17 cm que l'histoire est très triste.
Pas une tumeur. Voilà.
Mais c'est excroissance.
Ah, alors, c'est peut-être son appendice.
Non.
Qui était énorme.
Non, ouais, bah, un sein. Un sein, il avait un nichon.
C'est le plus gros que la science ait jamais vu.
C'est une excroissance.
Pas une excroissance.
Un kyste.
Une hernie.
Un testicule.
Une grosse hernie.
Un grain de beauté.
Un testicule de la taille d'une noix de coco. Le mec
ça
doit être boiteux, hein, le mec était boiteux.
Vous avez déjà vu quelqu'un avec des couilles de la taille d'une noix de coco?
Souvent.
Attendez. Est-ce que c'est quelque chose que tous les hommes ont, mais de plus petite taille?
Non. D'ailleurs, il vaut mieux pas en avoir. Mais de cette taille-là.
Un verre
solitaire.
Mais on se rapproche.
Un ténia.
Non.
Un microbe.
Non.
Un gros microbe.
Non. Un bouton.
Un microbe.
Non. Ils l'ont enlevé par où? Ils ont ouvert
une
le corps.
Pustule.
Ils ont ouvert le corps pour l'enlever.
Oui.
Ou par voie naturelle.
Oui. Bien sûr qu'ils l'ont enlevé.
Sander Sarkadi, le Hongrois en question, a dû être opéré.
Ah, une hémorroïde.
Non. Mais on est dans cette zone, hein.
Ah.
Un calcul dans le rein.
Un calcul
rénal. Non. Bonne réponse de Caroline Diamant.
Ouais, c'est bon, j'avais trouvé.
17 centimètres.
J'ai la photo du calcul rénal de 17 centimètres.
J'ai la photo.
Mais oui, c'est vrai.
Je me travaille pas avec, c'était dans la presse.
Hein. J'ai toujours la photo dans mon sac.
Voilà. Oh la vache.
Et quand c'est immonde. On dirait un œuf.
On dirait la tête d'un nouveau-né.
On dirait un œuf d'autruche.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Et l'enduit tout d'un coup. Ah, et 17 ans.
Mais comment? Non.
Allez.
Hey, tu trouves pas que c'est gros? Oh la vache, hein.
Ça y est.
Surtout
il bruit.
Pour un calcul, hein.
Non, c'est énorme.
J'ai une question plus intéressante et plus d'actualité que ce calcul rénal qui, je le vois, vous laisse indifférent. Si je vous dis tout simplement que la journaliste Delphine Minoui vient de publier un livre dont elle n'est pas la vedette, mais cette journaliste a coécrit avec quelqu'un un livre qui va faire un tabac et qui a commencé à faire un tabac partout dans le monde. Avec qui a-t-elle coécrit ce livre?
Avec Obama, cette petite jeune fille qui est la plus jeune divorcée du monde.
La plus jeune divorcée du monde, Nojoud, 10 ans. Excellente réponse de Caroline Diamant.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est une jeune fille qui vient du Yémen, qui est actuellement en tournée en France puisqu'elle fait une tournée à travers le monde pour la promotion de ce livre où elle raconte effectivement comment elle a été mariée à l'âge de 10 ans et divorcée, enfin mariée à 9 ans et divorcée à 10 ans. C'est la plus jeune divorcée du monde. Elle est en visite à Paris. D'ailleurs, elle rêve de voir les ours au jardin d'acclimatation, dit-elle. Mais c'est surtout les journalistes qu'elle rencontre. Le livre est publié chez Michel Lafon, et elle raconte évidemment comment, à 10 ans, elle est allée voir le juge au tribunal.
C'est pour, ça qui est incroyable.
Pour demander le divorce.
Enfin, c'est incroyable qu'elle soit mariée si jeune, soit. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle ait réussi, qu'une petite gamine.
Un pays aussi arriéré mais pour marier ça, les filles de 9 ans, pourquoi les libertines quand elles ont 10 ans?
Nojoud a été mariée de force en février 2008 à un homme de 20 ans, son aîné. Malgré sa promesse de ne pas la toucher avant sa puberté, il a abusé d'elle, il l'a battue, c'est ça le drame évidemment. Et le 2 avril 2008, c'est-à-dire 2-3 mois plus tard, elle s'est réfugiée au tribunal pour demander le divorce. Et le divorce a été prononcé. Vous avez raison, après tout, c'est assez étonnant.
C'est ça,
sa réussite.
Elle a sa propre garde ou pas?
Oui, la garde des enfants. Ah oui, c'est joli. En tout cas, elle a reçu le prix de la femme de l'année du magazine Glamour à New York. Ça paraît assez terrible d'ailleurs quand
c'est horrible, quand le magazine Glamour, quand on voit les rédactrices qui font ce genre de trucs. Tiens, la gauche là-bas, quel âge avait? 9 ans? T'es sûr? Je croyais que c'était 8. Non, 9, ça marche quand même. Et ils la prennent comme femme de l'année avec leurs talons hauts et leur machin. Oh!
Le livre, en tout cas, s'appelle Moi, Nojoud, 10 ans divorcé, et c'est publié chez Michel Lafon.
C'est la plus jeune de toutes les divorcées du monde. C'est celle-ci qui nous revient du Yémen. J'ai connu des divorcés à la ronde, mais mon cœur n'oublia pas celle-là. Bam, pim, pam, pim, pim, pam, pim,
attention,
pim, pam,
tu bruites.
Une dernière question. Quelqu'un est en train de tenter d'établir sur la lagune de Dakhla, c'est au sud du Sahara occidental, le premier record du monde de la distance parcourue en planche à voile. Mais il manque une précision concernant Olivier Brice, qui donc est sur cette planche à voile.
Il est aveugle?
Il est aveugle.
Oh, non.
Bonne réponse de Caroline Diamant. Effectivement. Il est radio-guidé par un coach et une équipe de 4 kitesurfeurs, mais lui, il est non-voyant sur une planche à voile. Ce qui est assez étonnant.
Quel courage.
Surtout, il sait pas quand est-ce qu'il faut mettre de la crème solaire ou pas, quoi. Si on planche à voile.
C'est n'importe quoi, Titoff, ça. J'ai jamais entendu un truc aussi ridicule.
C'est peu, mais justement.
Je crois qu'effectivement, il vaut mieux s'en aller là-dessus. On se retrouve demain entre 16h et 18h.
À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.